Nous tournons maintenant dans la Genèse, encore Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. La semaine dernière, nous avons vu les versets 5 à 17. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie et la dernière partie du chapitre, ce que je vais vous lire. Genèse chapitre 9, versets 1 à 4. Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit, « Soyez fécondes, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Donc, on arrête là. Et on recommence au verset 18. Verset 18. « Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. » Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrir la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Que Dieu étende les possessions de Japhet et qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leurs esclaves. » Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Donc aujourd'hui, on a un texte bien anticulturel, on va dire. Et donc on va parler de la nourriture, on va parler de la boisson et on va parler de la pudeur. Donc dans les versets 1 à 4, ce texte-là où on voit que désormais les animaux auront peur. Ils vont craindre les hommes, que ce soit les animaux, les oiseaux ou les poissons. Il dit, « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » C'est-à-dire comme il avait donné l'herbe verte. Donc, on va lire dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, versets 29 et 30. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et à tout ce qui meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. » Donc, à la À l'origine, Dieu avait donné aux hommes et aux animaux les plantes comme nourriture. C'est ça qu'on vient de lire. Sauf, vous savez bien sûr, qu'il y avait un arbre dont les hommes ne devaient pas manger. Okay? Donc, il y avait toutes plantes sauf un. L'arbre qui était au milieu du jardin pour la connaissance du bien et du mal. Il ne fallait pas manger de celui-là. Et jusqu'au déluge, ça semble que c'était comme ça. Tout être vivant était végétarien à cette époque-là. Après le déluge, Dieu a donné aussi la viande. C'est ça qu'on a lu ici dans Genèse chapitre 9. Alors, le premier point que je voudrais souligner, c'est que c'est Dieu qui donne la nourriture. Okay? Et on peut voir ça dans Psaume 50. Dans Psaume 50, versets 10 et 11, où nous lisons « Tous les animaux des forêts, » c'est Dieu qui parle, hein? Dieu dit « Tous les animaux des forêts sont à moi. » C'est pas à nous. C'est pas au roi, hein, comme c'était dans le Moyen-Âge, n'est-ce pas? Non, il dit « Tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui meut dans les champs m'appartient. » Donc, quand Dieu a dit qu'il nous donne les plantes, il nous donne ses plantes pour la nourriture. Et quand il dit qu'il nous donne la viande, donc les animaux et tout ça, eh bien, il nous donne ses animaux. Et donc, nous devons être reconnaissant. On doit reconnaître que tout appartient à Dieu. C'est vrai que bon, j'ai des choses qui m'appartiennent, etc. Mais vraiment, à l'origine, tout appartient à Dieu et il nous confie des choses, que ce soit les biens ou la nourriture ou même l'air qu'on respire. Tout ça vient de notre Dieu. Donc, comme il a donné au début de la création des plantes. Maintenant, depuis le déluge, il donne aussi la viande. Et à noter qu'il n'y a pas un végétarianisme chrétien. Il n'y a pas un enseignement biblique pour être végétarien, vegan, ou je ne sais pas quoi, les mots qu'on utilise de nos jours. Si on veut être végétarien, ou on veut être vegan, ou si on veut faire la grève jusqu'à la mort, ça n'est pas du tout biblique, c'est ce qu'on veut faire, on fait comme on veut, mais on ne peut pas soutenir ces choses à partir de la Bible. La Bible dit bien que Dieu a donné cette nourriture, plante et animal. Premier point. Enfin, second point. Tout appartient à Dieu et c'est Dieu qui donne. Il n'y a pas de végétarianisme biblique. Aussi, c'est intéressant à noter, pour ceux qui pensent à ces choses-là, comme moi. Donc, dans l'évolution, la théorie de l'évolution, l'homme commence étant chasseur et devient plus tard cultivateur. Tandis que dans le schéma biblique, l'homme commence cultivateur, depuis Adam, il cultive la terre, et il devient, après le déluge, chasseur. Ok, c'est intéressant. Alors, le texte nous dit que désormais, les animaux vont avoir peur de l'homme. Peur de l'homme parce que l'homme est devenu chasseur. Il veut les manger, il veut prendre les peaux, il veut faire des chapeaux et des manteaux et tout ça. Donc, avant, ça semble que les animaux n'avaient pas peur. Même dans l'arche de Noé, ben, il n'y avait pas une crainte entre les animaux et les hommes. Je ne peux pas affirmer, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre le péché et le déluge. Je ne sais pas. Il y avait beaucoup de violence, donc il y avait peut-être des choses, mais pas des choses autorisées. Alors là, maintenant, c'est par la suite du déluge, et Dieu dit, c'est comme ça. Donc, les animaux ont peur de l'homme. Et donc, comme Dieu avait donné à Adam à manger toutes les plantes, sauf un, ou une, Je sais plus. C'est une plante ou une plante? Une plante, voilà. Et bien, comme Dieu avait donné à manger toute plante sauf une, et bien maintenant, dans le verset 4, il dit, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Donc, il fait quand même une exception dans cette chose-là. L'idée ici, c'est que le sang représente la vie. Le sang représente, j'utilise le mot représente et j'insiste sur ce mot-là, le sang représente l'âme, la vie de l'être vivant. Donc, l'animal meurt pour que l'homme puisse se nourrir. C'est évident. Sauf pour nous, parce que nous, on va au magasin, on va acheter un steak haché, on va des tranches de jambon. Nous, on ne voit plus ce qui se passe. C'est vrai, non? On ne voit pas. Ce n'est pas très souvent qu'on va prendre une poulet, on va trancher la tête et ça va courir un peu à droite et à gauche. On ne fait plus ça. Mais c'était comme ça depuis toujours, depuis le déluge, n'est-ce pas? Donc, l'interdiction ici pour manger du sang, c'est-à-dire de ne pas manger la viande avec le sang, c'était le moyen pour montrer du respect pour la vie ôtée. L'animal a dû mourir. Okay? Nous, on ne voit plus l'animal mourir. Mais les animaux doivent mourir pour que ça soit dans les rayons, dans le marché ou aux grandes surfaces. Même aujourd'hui, parce que je suis allé poser des questions hier dans la boucherie, je demandais comment on fait quand on va tuer un animal, est-ce qu'on les électrocute? On les saigne toujours. Même aujourd'hui. J'ai dit, mais dans votre boucherie, c'est comme ça, mais dans les grandes usines, il dit, on saigne toujours les animaux, il dit, sauf les pintades et les pigeons. Il dit, parce qu'autrement, la viande n'est pas mangeable. Mais voilà, c'est certainement une des pratiques les plus anciennes chez les êtres humains, c'est cette idée de saigner l'animal. Je ne dis pas que tout le monde le fait. Quand j'étais en Normandie, je suis allé faire des visites et j'ai vu une faisan qui était là, pendue sur la cheminée, qui gonflait. Ils l'avaient étranglée, ils allaient la manger comme ça. Les païens font des choses comme font les païens. Mais dans les civilisations, dans les cultures chrétiennes, donc juifs, musulmans et chrétiennes, eh bien, on saigne les animaux. Alors, on m'a posé des questions plusieurs fois à propos de ce qui est halal. Est-ce que c'est une viande sacrifiée aux idoles? Je n'ai pas encore posé des questions à un imam. Il faut que je trouve un imam qui veut bien me répondre. Mais je pense, dans l'idée de ce qui est kosher, pour les juifs, c'est-à-dire, ils vont peut-être dire une prière en hébreu à propos de cet animal ou ces animaux qui vont mourir. Et en islam, ils vont dire une prière à propos de ces animaux. Ce n'est pas un sacrifice, ça c'est sûr. Mais je pense que leur prière de halal, c'est simplement de reconnaître que cet animal est mort. Donc le boucher l'a tué, hein, comme il dit ici. Et chez les laïcs, on ne va pas prier, mais on va quand même tuer l'animal et on va le saigner. Un animal kosher, un animal halal, un animal français, quand vous allez prendre la viande, tous les trois sont saignés. Il n'y a pas de grande distinction là. Je ne sais pas quelles sont les petites nuances de différence, mais c'est la même chose. Donc, comme le sang représente la vie, de même, saigner l'animal représente le respect pour la vie. Vous ne le faites pas parce que vous ne le tuez pas. Quelqu'un d'autre l'a fait. Mais vous allez faire quoi? Vous allez donner, vous rendre grâce à Dieu pour montrer votre reconnaissance pour la nourriture qui vous est parvenue. Vous est parvenue. Donc, l'idée principale, c'est que l'homme manifeste. Oh oui, ok. Donc, il doit avoir du respect pour la vie. C'est ça qu'il faut retenir déjà. Mais il y a aussi, donc je ne vais pas passer du temps là-dessus, mais il y a des moyens pour montrer du mépris pour la vie. Peindre avec le sang, comme faisaient les Incas. Les victimes qui tuaient les gens et puis ils prenaient le sang et peignaient dans les murs avec le sang. Boire le sang, comme faisaient beaucoup de cannibales, etc. Ou manger le sang. Ce sont des actes de mépris pour la vie. En 1 Timothée 4, 4, nous lisons « Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » C'est la reconnaissance. « Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné à manger. » Ok, je ne vais pas aller plus en détail. Maintenant, on va sauter au verset 18. Et on va relire le texte et je vais donner quelques réflexions. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Canaan. Ici, on va commencer à parler d'un événement qui touche surtout Canaan. Et les descendants de Canaan. OK? C'est pour cela qu'il dit Cham est lui le père de Canaan. Ce sont les trois fils de Noé, pas Canaan, il était un petit fils, et c'est de leur postérité qui peupla toute la terre. Voilà, maintenant on est bien des années après le déluge. Beaucoup d'années, parce qu'on parle des petits fils. Et là, on parle de plus petites petit-fils de Noé. Donc, on est à plusieurs années, 10, peut-être 15, peut-être 20, peut-être 30 ans après le déluge. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Donc, on va arrêter là pour parler du premier thème. Noé s'enivra. J'ai lu cette phrase ce matin quand j'étais à la boulangerie. J'ai lu. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Est-ce que c'est un verset biblique? Non. C'est le gouvernement qui impose cette phrase sur les bouteilles d'alcool. D'accord? Mais je veux repérer un mot dans cette phrase. Dangereux. OK? Dans l'Ancien Testament, le mot yayin ou les autres mots pour l'alcool nous évoquent le mot danger. Faites attention. En Éphésiens chapitre 5, verset 18, nous lisons Ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. La débauche, c'est l'immoralité. Donc, la parole dit que s'enivrer, c'est immoral. Donc, je ne sais pas si le mot par la suite est pourquoi. Mais avec ce mot-là, eh bien, l'ivrognerie ouvre à l'immoralité. Et encore plus d'autres choses. Boire du vin, et bon, surtout dans la Bible, on parle du vin. On parle des boissons fortes, donc c'est plus fort que le vin. Et on ne parle presque, j'hésite à dire, mais je pense que la Bible ne parle pas du tout des drogues. Le marijuana, le cocaïne, et toutes ces choses-là. Je ne sais pas s'il y a un verset qui parle de ces choses-là. Mais quand on parle du vin ici, on parle d'un produit qui entre volontairement, normalement volontairement, mais ce n'est pas tout le cas, dans le corps et qui change la tête, qui change l'esprit et par la suite change le comportement. Et c'est pour cela qu'on doit dire « Attention, c'est dangereux !» Combien de jeunes Américains, chaque année, ils font des fêtes. Et il y en a qui ne savent pas que c'est dangereux et qui meurent par trop d'alcool rapidement dans le système. Je ne sais pas si ça se fait, ça se fait en France. Mais aux États-Unis, il y a plein de jeunes universitaires qui meurent à cause de ça. Ils boivent trop d'alcool, trop rapidement, ils n'ont pas l'habitude, choc au système, fini. OK? Boire du vin, de l'alcool ou même prendre les médicaments n'est pas un péché. Par contre, abuser, et je crois que c'est ça le mot, l'abus d'alcool dans le texte du gouvernement, abuser du vin ou de l'alcool ou des médicaments est un péché. C'est de la débauche. La Bible dit c'est de la débauche. Ça veut dire c'est un péché. Je me souviens toujours, Sophie et moi, étaient chez un caviste. En fait, c'était deux cavistes. Et on ne boit pas d'alcool, nous, du tout. Et on ne critique pas non plus. On ne dit rien. Bon, si quelqu'un nous le propose, on dit non, merci, on ne boit pas d'alcool. Et bon, voilà, fini. Et puis, on passe à autre sujet. Mais les deux cavistes étaient offensés qu'on ne buvait pas leur vin. Donc, ils se sont proposés de faire une barbecue et ils allaient boire autant de vin qu'ils voulaient pour montrer qu'on ne pouvait pas s'enivrer. Ça ne marche pas. C'est stupide même. Et à la fin de la soirée, les deux femmes, les deux hommes, avaient honte de leur mari pour leur ivrognerie. C'était des chrétiens. C'est n'importe quoi. Hein? Je crois que je vous ai déjà parlé de ces deux jeunes hommes, donc 20-25 ans, américains, de famille chrétienne, donc en principe des chrétiens, qui sont entrés à utiliser les drogues illicites. Et l'un qui a pris la drogue, et quand la femme est revenue des vacances, il était là, morte, dans le séjour, parce que les drogues peuvent être mortelles. Ce n'est pas simplement une question de santé, mais c'est aussi une question de vie. Et l'autre, donc tous les deux chrétiens, qui avaient pris, je pense que c'était la même drogue, et qui était en coma pendant plusieurs semaines. Et puis petit à petit, il s'est réveillé. Et donc là, je pense aujourd'hui, ça va. Mais il était à... Il frôlait la mort, l'autre. C'est pas un jouet. C'est dangereux. L'alcool, comme les drogues, attention, est dangereux, il dit dans le texte du gouvernement, pour la santé. Mais qu'est-ce qu'il veut dire pour la santé? Pour la santé, ou le bien-être, n'est-ce pas, de celui qui boit. C'est dangereux quand on boit, si on boit trop. Si on boit demi-trop, on est quand même affecté dans la tête. Attention, c'est pas que voilà, j'arrive, je suis à la fin, je suis ivre. Mais je suis en train de devenir ivre. Donc, mon beau-frère, il a peur des gens. OK? Donc, il ne voit jamais dans un groupe de monde sans avoir bu auparavant quelque chose d'alcool pour le relaxer un peu. OK? Juste un peu. Juste un peu d'alcool, je veux dire. Le point, c'est que déjà, avec la première bouteille, c'est lui qui dit, je pense que c'est la bière, un verre de bière, ben ça le relaxe. Il y a un effet sur le corps à partir du premier verre. Que ça soit une bouteille de bière, un verre de vin, un shot de whisky, c'est la même quantité, volume d'alcool dans toutes les choses, d'après les règles. Et donc, c'est dangereux pour la santé de celui qui boit volontairement. Mais c'est aussi un danger pour la santé de la personne à qui on fait boire. Vous savez bien comment ça marche. Une dame est dans un bar, elle rencontre des personnes, on met une petite quelque chose dans le verre et elle ne se souvient plus de rien, sauf que quand elle se lève le lendemain dans un lit, toute nue, quelque chose, elle sait que quelque chose est arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas simplement qu'on boit ou on prend des drogues, mais il y en a qui font boire et qui font prendre des drogues. Il y avait un verset dans Habacuc, je ne sais plus le verset, qui parle de cette pratique-là. C'était toujours pratiqué. On a toujours fait boire les gens. Il y a même des gens méchants qui font boire les amis, qu'on veut le travail, pour qu'ils deviennent ivrognes, pour qu'ils perdent son travail, etc. Il y a toute une suite de ces choses-là. Aussi, l'alcool est dangereux pour la santé des tierces personnes. Je vous ai déjà parlé de cette exposition dans l'Orne, où les infirmières avaient fait une grande exposition des frais de la sécurité sociale suite aux accidents de la route qui étaient provoqués par les conducteurs enivrés. Combien ça coûte au gouvernement français de soigner, je ne parle pas des morts parce qu'il n'y a plus de soins pour les morts, mais pour les survivants qui sont handicapés parce que les conducteurs ivrognes sous l'alcool, l'influence de l'alcool, ont heurté les voitures, ont heurté les piétons, etc. Et dangereux pour la santé ou le bien-être des femmes et des enfants battus et appauvris parce que les hommes deviennent ivrognes. Ivrognes. Donc oui, il y a de quoi dire, c'est dangereux. Après, on va voir le reste du chapitre. Donc, il avait planté cette vigne, il a bu, s'enivra, se découvrit au milieu de sa tente. Verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, « Maudit soit Canaan, et qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères, etc. » Ok? Ce texte nous dit que Canaan a commis un péché d'immoralité. Le texte ne parle pas du fils cadet. Le mot cadet dans votre français n'est pas dans l'hébreu. Le verset lit comme ça. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qui lui avait fait le plus petit de ses fils, c'est-à-dire son plus jeune petit-fils. Il s'appelait comment? Canaan. C'est à propos de Canaan. Et Noé dit, « Maudit soit Canaan !» Parce que quand on le lit dans le français, on dit, « Mais pourquoi son père a péché et Canaan soit maudit ?» C'est parce que le texte ne dit pas que son père a péché, il dit que Canaan a péché et que lui était maudit à cause de son péché. Le texte dit, « Le fils le plus petit de Noé, donc, Cham est le second fils. Il est le cadet. Il n'est pas le plus petit de ses trois fils. Il est le cadet. Donc, ça aurait été Japhet. Mais ce n'est même pas ça. C'est le plus petit. Donc, c'est le plus petit de ses de ses petits enfants qui sont vivants à ce moment-là. Et c'était Canaan. Et à savoir que Canaan, ses descendants sont devenus le plus immoral, la culture le plus immoral de l'Antiquité. Donc, ça a été, on voit bien que Cham était un peu pervers, Canaan était bien plus pervers, et les descendants étaient excessivement pervers. Quand Dieu a, donc, suite au péché, quand Dieu a fait fonctionner la conscience dans l'homme, il a installé ce qui s'appelle la pudeur. P-U-D-E-U-R, la pudeur. C'est le sentiment de gêne ou de honte vis-à-vis des choses sexuelles. Par la pudeur, on se détourne le visage. Donc on voit que Sem et Japheth se sont détournés le visage pour ne pas regarder. C'est se détourner le visage, c'est l'idée de pudeur. Il n'y a pas de pudeur dans le mariage. Et on voit ça bien avec Adam et Ève dans Genèse 2, ils étaient tous les deux nus et ils n'avaient pas de honte. Cette idée de honte, ça est provoqué par le pudeur qui est dans la conscience. Par contre, il y a aussi l'impudicité. L'impudicité, c'est le manque de pudeur. Et donc, par l'impudicité ou par la convoitise sexuelle, on regarde et on désire voir la nudité et l'immoralité. Ils mettent ça dans tous les livres du monde, dans presque tous les films. C'est comme une obligation, il faut mettre ça. Par manque de pudeur. Donc, Canaan a agi par l'impudicité. Son père, Cham, a trouvé la situation amusante. Donc, il a fait quelque chose, le texte biblique ne dit pas, il est sorti, il dit à son père, « Ha, 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 papa, gna, 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 il a raconté ça. » Et son père, Cham, a vu ça, il sortit et dit à ses frères, « Ha, ha, j'ai une bonne blague. » Cette idée-là de raconter les paroles grossières, c'est interdit aux chrétiens dans Éphésiens chapitre 5 et verset 4. On ne veut pas raconter les plaisanteries scabreuses et ces choses comme ça. Ce n'est pas chrétien, ça. Et puis, Sem et Japheth, ils ont eu honte, honte pour leur père. Et le décence de marcher en reculant pour régler le problème. Alors, que faire avec tout ça? Que faire avec tout ça? Bon, premièrement, ayez du respect pour la vie. On a déjà parlé de ça un peu la semaine dernière, quand on a parlé de la vie humaine, mais on parle aussi de la vie des animaux. Il faut avoir le respect pour la vie. Et ayez de la reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il vous donne. Tous lui appartiennent. Et vous êtes un consommateur des choses qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, reconnaissez que le vin, l'alcool, les drogues sont dangereux. Mot souligné, dangereux. Troisième chose, gardez ou maintenez votre sens de pudeur. Ou, si vous ne l'avez plus, permettez à la parole de Dieu de le reconstruire dans votre conscience. Donc, on est tous nés avec cette gêne. Hein? On est tous nés comme ça. Et c'est par l'influence autour de nous que ça disparaît. Et ce n'est pas toujours, on va dire, passif. Hein? Il y en a des gens qui font un effort pour enlever de la conscience cette chose afin d'abuser des autres. Okay? Donc, respect pour la vie, reconnaissance envers Dieu, attention pour les choses dangereuses et de garder ou reconstruire votre faculté de pudeur étant chrétien. OK? Que le Seigneur vous bénisse.